Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présenté par Sylvie Rosier.
La seconde main et le don ont tout bon, même à Noël. Pour les traditionnels cadeaux au pied du sapin, de plus en plus de Français ont l'intention de recourir aux dons d'objets entre particuliers, ce qui présente en effet bien des avantages. Économiques tout d'abord, mais aussi environnementaux. À l'heure où les cadeaux de Noël comptent comme le premier poste d'émission à gaz à effet de serre lié aux fêtes de fin d'année. Conviction écologique et nécessité budgétaire avancent en effet de pair, même si contre toute attente, la première prend le pas sur la seconde. C'est d'abord et avant tout la volonté de consommer plus responsable qui pousse de nombreux Français à se tourner vers des solutions de seconde main. Pour réduire son budget, les dons de produits alimentaires sont également plébiscités par les sondés durant les fêtes de fin d'année. Ceux qui recevront ces cadeaux de seconde main vont-ils en prendre ombrage ? Non, au contraire. Certains déclarent même préférer recevoir un produit de seconde main plutôt qu'un neuf. D'autres indiquent d'ailleurs avoir déjà reçu au moins un cadeau de seconde main et une même proportion d'y avoir été satisfaite par le présent de seconde main qui lui a été offert. Plus significatif encore, pour près d'une personne sur deux, un cadeau s'apprécie à sa valeur intrinsèque ou sentimentale et non pas à sa valeur monétaire, qu'il soit de seconde main ou non. Allez, on s'y met cette année ?
Calade.
Ma radio.
L'info locale et régionale.
Le 9 décembre, journée de la laïcité. La laïcité, un principe de liberté de croire ou de ne pas croire, elle est le fondement de notre société et de notre école qui doit préserver les élèves de tout prosélytisme, idéologie, économie et religieux. Christian Van der Driesch est le président de la délégation des délégués départementaux de l'éducation nationale, DDEN, à Villefranche-sur-Saône. Il nous invite à une conférence débat le samedi 9 décembre à 10h au cinéma Les 400 Coups à Villefranche. Mais tout d'abord, qui sont ces délégués ?
Délégués départementaux de l'éducation nationale, ce sont des bénévoles qui travaillent, on nous appelle les parrains de l'école publique. On a deux chapeaux, on est garant du bon fonctionnement des écoles publiques et puis garant du respect de la laïcité dans tous les établissements scolaires. Oui, on assiste à tous les conseils d'école. Nous sommes une trentaine de bénévoles. On n'a nul besoin d'avoir été à travailler dans l'éducation nationale. Sur l'équipe de Villefranche, sur 30, il y en a 8 qui ont travaillé à l'éducation nationale et tous les autres viennent de tous les milieux sociaux professionnels. Donc on est les modérateurs dans les conseils d'école, dans le sens où on est à disposition soit des équipes pédagogiques, soit des mairies, soit de l'éducation nationale. L'année dernière, on a consacré 1600 heures de bénévolat à toutes ces personnes. On a un chapitre d'activité très large. La seule chose sur laquelle on n'a pas le droit d'intervenir, et c'est compréhensible, c'est la pédagogie. Tous les autres domaines nous sont ouverts. Donc on travaille beaucoup depuis 4-5 ans sur la citoyenneté, où l'année dernière, il y a 52 classes et 1100 élèves qui sont venus travailler autour du domaine qu'on avait choisi, qui était l'égalité filles et garçons. Cette année, on a choisi le thème de la liberté. Il y a 3 ans, on avait choisi la fraternité. Liberté, égalité, fraternité. On voit tout de suite, notre objectif, c'est de faire en sorte que ces enfants de CE2, CM1 et CM2 puissent entendre parler pendant 3 ans de la citoyenneté et de la République, de se situer dans la République. Donc, et chaque année, on remet des récompenses, toujours dans un lieu symbolique de la République. Il y a 3 ans, nous avons remis les récompenses à la mairie de Villefranche. C'est monsieur le maire de Villefranche qui a présidé la cérémonie. Il y a 2 ans, c'était à la sous-préfecture et c'est monsieur le sous-préfet qui a présidé la cérémonie. L'année dernière, c'était au tribunal judiciaire. C'était toujours pareil, la présidente et la procureure qui ont présidé la cérémonie. Et là, au mois de juin, les récompenses, puisqu'il y a déjà 1200 inscrits. Chaque année, on monte en nombre d'enfants qui viennent participer à ce concours. Et là, cette année, toujours dans un lieu symbolique de la République, les récompenses seront mises au conseil départemental en présence du président du conseil départemental.
Dans le cadre de la journée de la laïcité, le samedi 9 décembre prochain, la DDEN invite donc à débattre sur le sujet, accompagné de conférenciers spécialistes de la question.
Tout à fait. Comme je vous l'ai dit, on a deux pans d'activité et le bon fonctionnement et les meilleures conditions possibles pour tous les enfants de notre périmètre et également la laïcité. Et donc, il y a 4 ans, on avait diffusé à l'ensemble des parents d'élèves un document sur l'histoire de France et de la laïcité. Cette année, on a décidé de faire carrément une conférence débat où chacun, l'entrée gratuite, bien évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Et là, on aura 3 intervenants qui vont nous expliquer d'abord un premier chapitre sur l'histoire de France et laïcité, pourquoi la France est laïque aujourd'hui. Et donc, tout le monde pourra poser des questions à cet intervenant. Ensuite, nous aurons un état des lieux, comment est ressentie la laïcité, comment est-ce qu'elle est pratiquée, est-ce qu'il y a des problèmes dans notre secteur liés à la laïcité. Et puis un troisième pavé, pareil, sur l'avenir de la laïcité.
Quelques mots sur l'histoire de la laïcité.
Alors, son histoire, elle a débuté quand on écoute tout ce qui se passe aujourd'hui, on a le sentiment que cette laïcité, elle existe depuis peu et qu'elle est là uniquement pour empêcher les religions de pouvoir pratiquer leur foi, et notamment les croyants, de pratiquer leur foi et tout, ce qui n'est pas du tout le cas. La laïcité, elle est née d'un fait historique qui fait qu'une reine a voulu trucider tous les protestants et que, bien évidemment, ça ne s'est pas passé comme elle le souhaitait, puisque la France n'est pas restée avec une seule et unique religion. Et il a bien fallu trouver des terrains d'entente et le chemin a commencé comme ceci, petit à petit, où les protestants, puisqu'à l'époque, c'était les curés qui tenaient les registres de naissance, et il fallait bien, les protestants refusaient de pouvoir figurer sur ces registres ou d'aller voir les prêtres, puisqu'il y avait eu des guerres des religions entre-temps. Donc il a fallu créer l'état civil, et ainsi de suite, jusqu'au cheminant de 1905, où là, il a fallu carrément sortir la religion de la structure d'État pour dire que la religion devenait
la séparation des États.
Tout à fait. La religion est devenue un choix personnel, non plus un choix d'État. Et la France est devenue laïque. Mais il y a un cheminement, et Mme Guimenet, samedi matin, expliquera tout ça avec tous les faits historiques qui font qu'aujourd'hui, la France est laïque.
Alors, la reine, c'était Catherine de Médicis, j'imagine.
Oui, une belle personne.
Aujourd'hui, la laïcité est une problématique contemporaine. Pourquoi fait-elle polémique ?
Alors, on a beaucoup entendu parler de la laïcité. Alors, une laïcité positive, une laïcité ceci, une laïcité cela. En fait, il y a une loi, elle est là, elle demande qu'à être respectée. L'état des lieux, on peut dire que depuis quelques années, elle est beaucoup contestée par une
chahuté,
partie.
Oui.
Chahutée, voire pire, puisqu'on voit des assassinats au titre de la religion, alors que moi, j'ai bien lu tous les bouquins, les religions ce sont des espaces de paix, non pas des espaces de guerre, mais la réalité est tout autre. Mais sur notre secteur, nous, on tient des statistiques tous les ans pour regarder les incidents qu'il peut y avoir liés à la laïcité. Et on en a, pour ce qui est du premier degré, on a très peu d'incidents. Et quand on a des incidents, quels qu'ils soient, on fait remonter ça aux communes. Et en règle générale, les choses sont réglées dans l'instant, voire très rapidement. Au niveau des enfants, l'année dernière, je crois qu'il y a eu 10 d'incidents, et je me dis bien des incidents dans le sens où des enfants n'ont pas voulu participer à tel sport et tel autre, par rapport à la religion, par rapport à ceci et cela. Mais ça s'est très vite réglé, les parents sont convoqués, et automatiquement, les choses sont mises en place et elles se règlent très facilement.
Donc, la laïcité fonctionne.
Pour ce qui est du premier degré, puisque nous, DDEN, on s'occupe qu'uniquement des maternelles et primaires, on peut dire qu'il n'y a pas trop de problèmes.
Et en conclusion, la laïcité, un atout pour vivre ensemble ?
Si vous voulez, moi j'ai toujours considéré que la laïcité, vous verrez sur la brochure que je vous ai remis, à un moment donné, on voit un bel orchestre symphonique, et j'ai toujours pensé que la laïcité, et c'était un peu la représentation de la République, dans le sens où, si toutefois, comme il y a plusieurs religions en France, il y a des non-croyants, il y a des croyants, il y a toutes les catégories possibles, c'est comme un orchestre. Si on prend que des cuivres, on n'arrivera pas à faire jouer l'orchestre, ou tout moins, prenez Nabucco uniquement avec les cuivres, ça va pas être facile. Si vous prenez que les violons, ça va pas marcher non plus. L'État français, la laïcité, c'est cet ensemble qui fait que grâce à cette laïcité, tout le monde peut jouer ensemble sur le même registre. Et en fait, L'État, il a le rôle de chef d'orchestre à faire en sorte que tout le monde fonctionne correctement. Et si vous regardez bien les photos, vous verrez que chaque chef d'orchestre a une baguette. Et nous, en D2N, on dit souvent qu'on a la baguette qui permet à ce que tout le monde comprend comment est-ce que ça va fonctionner tous ensemble.
Eh bien, on va finir sur cette belle image. Et on a l'habitude de dire que la musique adoucit les mœurs. Donc, c'est une belle image que vous nous offrez. Merci à vous.
Merci à vous de m'avoir entendu.
Journée de la laïcité, conférence débat samedi 9 décembre à 10h au cinéma Les 400 Coups à Villefranche à l'initiative de la DDEN, délégation départementale de l'éducation nationale locale. Un coup de projecteur sur la jeune lauréate Phébé Pérez, médaillée d'or au concours national 2023, un des meilleurs apprentis de France en tournage manuel. Elle est élève de l'école entreprise La Fabrique, académie de mécanique, située sur le campus artisanal et industriel de Créacité à Villefranche-sur-Saône.
Moi, j'ai fait une seconde générale dans un lycée à Tarare. Ça se passait pas super bien. Donc, au bout de 6 mois, on m'a déscolarisée. Du coup, je suis partie en coiffure avec ma mère le temps de trouver une formation qui me plaisait. Et on connaissait déjà Monsieur Boulanger qui nous a dit qu'il voulait créer une école de mécanique générale à Villefranche. C'est un métier que je connaissais pas du tout. Du coup, je suis allée faire des stages et ça m'a bien plu.
Qu'est-ce qui t'a plu dans le métier? Qu'est-ce qui te plaît?
C'est sûr que ça change d'un cursus scolaire classique où on est assis 8 heures et on écoute juste un prof parler pendant 8 heures. Là, on est debout les 3/4 de notre journée, donc ça change. Puis on travaille. Moi, j'ai toujours été manuelle, donc c'est vrai que je préfère être en train de travailler qu'assise à lutter pour pas m'endormir.
Tes premiers 18, c'était le rêve?
Oh là, non. Moi, j'ai toujours eu des bonnes notes, même en général. J'étais toujours une bonne élève, mais je me faisais chier, en fait. Donc... Il y a un moment, on décrochait un peu et mes parents savaient, on en a parlé avec mon père dans la semaine et il m'a dit que dans tous les cas, ils savaient que j'allais partir dans un métier manuel. Donc c'est vrai qu'eux, ils étaient limite contents en fait que je parte dans ce cursus-là. Mais non, j'ai toujours eu des bonnes notes, ça c'est pas un truc qui a changé. Si, maintenant, je crois que ma pire note, ça doit être un 13 sur 3 ans. Donc, j'avais des matières où j'avais beaucoup de notes en dessous de 5. Maintenant, ça va.
Phébé, il y a un petit côté aussi, comme ça, hein, dans ton parcours, je casse les barrières et je m'impose un peu, hein, c'est ça, hein?
Oui, parce qu'on ne s'impose pas dans la vie, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de subir la vie. Non, je voulais déjà travailler en mécanique en troisième, en mécanique moto, et on m'avait toujours refusé ce parcours-là parce qu'on me disait qu'une fille, ça n'avait rien à faire dans un garage, que je serais bien mieux en esthétique ou en choses comme ça. Moi, je suis allée en coiffure avec ma mère. On savait très bien que j'allais jamais passer mon CAP, que je n'allais jamais finir coiffeuse, que je ne supporte pas ça. Et je suis bien en mécanique. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Alors, travailler sur des machines comme ça, je m'y serais jamais attendue, parce que moi, je voulais vraiment travailler sur les moteurs, etc. Mais c'est aussi pas plus mal de pouvoir les fabriquer, quoi.
Dans le cadre des valorisations, on en a parlé. Effectivement, il y a ces fameux concours. Alors Phébé, toi, tu es arrivée vraiment à quelque chose d'extraordinaire. On est fiers.
Ouais, ouais. J'ai fait le concours l'année dernière sans vraiment aucune prétention. Moi, c'était ça passe pas. C'est pas grave. Je serais allée le plus loin que j'ai pu. Et puis, voilà. C'était surtout pour apprendre et puis. Pour me prouver que je pouvais au moins essayer de faire quelque chose de bien, même si après j'allais pas jusqu'au national, même si je me serais arrêtée en départemental ou en régional, j'aurais déjà fait plus que certains qui n'auraient jamais eu le courage de tenter, quoi.
Ça demande quoi? Ça demande d'être sur un concours, ça demande quand même beaucoup de réflexion, enfin, la pression, quoi.
C'est beaucoup de c'est énormément, c'est déjà énormément de psychologique parce que c'est très dur. Des fois, j'ai passé plus de 12 heures sur une pièce. Quand on vient à la rater, qu'il faut tout recommencer, c'est psychologiquement, c'est dur, parce qu'on se dit oh, j'ai fait tout ça, faut que je recommence tout, faut que je refasse tout. J'ai failli arrêter en 2 fois parce que c'est psychologiquement, c'est dur. On se retrouve, on voit tous les autres les vendredis qui partent à midi, puis nous on est obligé de rester jusqu'à 17h dans un atelier où on se retrouve tout seul, où du coup il y a plus que nous qui travaillons, ça fait vide. Puis c'est beaucoup du personnel en fait, c'est puis beaucoup de temps. Moi j'ai mis plus de 150 heures pour la faire. Donc c'est beaucoup de temps, c'est dur quand même des fois.
C'est une pièce que vous avez présentée, alors c'est ça?
C'est ça, c'était j'avais des dizaines de plans à fabriquer, donc plein de pièces, et on devait les assembler, et ensuite on les envoyait pour être noté en fait en départemental, en régional et en national.
Mmh, très bien. Et vous avez été médaillée.
C'est ça, médaillée nationale.
Non, alors, quelle couleur la médaille ?
La médaille d'or.
Brillante et modeste, le mot de la fin avec Phoebe.
Fière de moi, ouais, mais je suis encore... on a toujours un peu du mal à réaliser que c'est vrai, parce que c'est pas non plus n'importe quel concours, quoi. C'est pas le concours du village où on gagne un prix. Là, c'est quelque chose de gros qui peut permettre d'ouvrir plein de portes. Mmh. Mais je pense que les plus fiers, c'est mes parents, parce qu'on a vraiment galéré à me trouver un parcours qui me plaisait, parce que j'ai failli partir à l'armée, j'ai failli partir dans la musique, j'ai failli partir en boulangerie, parce que je trouvais pas ce qu'il me fallait. Donc je pense que les plus fiers, c'est eux quand même.
Le concours annuel Un des meilleurs apprentis de France est organisé par la Société nationale des meilleurs ouvriers de France. Le concours s'adresse aux jeunes âgés de moins de 21 ans en formation initiale, CAP, BEP et Bac Pro.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.